Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Benoît-du-Lac qui évoque la figure de Saint-Patrice, fondateur du christianisme irlandais qui a vécu à cheval sur les 4e et 5e siècles. Saint patron de l'Irlande et du Nigeria, également des ingénieurs et des dresseurs de serpents, ce missionnaire thaumaturge a été l'objet de multiples légendes qui brouillent les repères chronologiques réels. Il est fêté le 17 mars à travers le monde, notamment par de gigantesques défilés. Don Bolduc, bonjour.
Bonjour.
On parle de quelqu'un qui est extrêmement fêté, célèbre un peu partout dans le monde, mais dont on ne sait pas grand-chose de réel.
C'est-à-dire que, vous savez, en Angleterre, il y a souvent de la brume hein, dans le ciel. Alors, dans l'histoire de Saint-Patrice, il y a plusieurs éléments qui sont incertains. Et puis, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ça, mais quand même, on a des éléments de base, quand même, sur lesquels on peut se fier vraiment.
Il y a quelques écrits de Saint-Patrice. Vous dites Saint-Patrick ou Saint-Patrice, vous?
Bien, les gens dans le monde, ils disent toujours Saint-Patrick. Mais seulement, moi, quand je suis venu au monde, c'était aujourd'hui, ça fait 94 ans aujourd'hui.
Ah, oh ben dites donc.
Alors, ma marraine, je m'appelle Patrice.
Ah,
et
je
puis,
comprends.
Mais seulement, dans la famille, ils ont eu une discussion, puis finalement, j'ai pris un autre nom.
C'est Jacques qui a remplacé Patrice.
Oui, alors, mais par contre, on a au monastère, je suis actuellement le plus vieux des prêtres au monastère, mais on a actuellement le plus jeune des prêtres qui s'appelle Patrick.
La boucle est bouclée.
Oui,
dites-moi donc. Alors, Saint-Patrice d'Irlande donc, serait né vers 386 en Bretagne insulaire, donc aujourd'hui la France.
Oui.
Il serait mort en Ulster, donc l'Irlande du Nord d'aujourd'hui, le 17 mars 461. Tout ça, c'est à peu près.
Oui.
À peu près. Est-ce qu'il y a beaucoup
y a
de textes?
Il y a quand même certains éléments. Parce qu'on sait qu'à l'âge de 16 ans, c'était en 405. Il y avait 16 ans à ce moment-là.
Parce qu'à
ce moment-là, les fonctionnaires romains ont été effacés du pays. Mm-hmm. Alors, puis lui, son père était justement un fonctionnaire romain. Puis lui, il avait 16 ans à ce moment-là. Ça veut dire qu'il est né en 389.
389, et non pas 386. Est-ce qu'il naît dans un milieu déjà christianisé ou païen?
Il était chrétien, probablement. Mais seulement, c'était des gens qui demeuraient en Irlande depuis un certain temps.
Mm-hmm.
Parce que son père était décurion romain, il était chargé de collecter l'impôt. C'est peut-être pour la raison qu'il n'était pas très populaire, évidemment.
On s'imagine.
Mais seulement, c'est un homme qui avait une certaine noblesse, une certaine loi de naissance, qui avait été envoyé à ce pays-là.
On peut dire quand même avec une certaine assurance que Patrice donc a eu un sort analogue à n'importe quel enfant de l'aristocratie de la Bretagne romaine, quoi.
Justement, c'est que c'est des gens qui étaient partis de Rome et puis qui étaient envoyés dans les différentes régions des peuples qui étaient dominés par l'Empire romain. Et puis, alors, lui, il faisait partie de ce groupe-là.
Alors, il est... à un certain âge, dans l'adolescence même, non? Il est pris comme otage ou esclave par des Pictes ou des Scots.
Il a essayé de se sauver quand ses parents sont fait saisir. Quand il avait 16 ans, il a essayé de se sauver avec quelques-uns de ses compagnons. Ses deux petites sœurs ont été assassinées ou liquidées, de quelque façon, avec ses parents. Alors lui, il a essayé de se sauver, mais il a été retrouvé par des soldats qui l'ont ramené dans le pays. Et puis, il est devenu un esclave, pratiquement, puis un serviteur, puis un type qui travaillait sur une ferme là, pour s'occuper des brebis, puis sur les récoltes.
Alors, je pense qu'il était bon. Avant sa capture, avant son esclavage, la religion pour lui, c'était un peu pour les autres. Et soudain, pendant sa captivité, il va rencontrer Dieu, il va devenir vraiment un chrétien dévot, non?
Oui, je pense que c'est ça là, qui est très, très important. C'est une captivité qui a été transformée en retraite fermée. Alors, oui. Durant tout le temps de sa captivité, qui a duré 6 ans, mm-hmm. Alors, de 16 ans à 22 ans, là, il priait une partie de la journée, puis il était presque toujours tout seul, avec ses brebis. Et puis, alors là, il priait, puis même la nuit aussi, il priait. Puis, enfin, là, c'était pour lui le signe d'un réveil spirituel. Mm-hmm. Parce qu'il est devenu vraiment un chrétien très fervent.
Je pense que pendant sa captivité, Patrice va également apprendre le gaélique, qui est la langue des Bretons et des Irlandais. Oui. Et ça, c'est très important.
Probablement qu'il a parlé aussi. Il parlait un peu le latin, certainement.
Ben oui.
Parce qu'il avait appris ça avec ses parents. Mais seulement, il a appris aussi. Probablement, même avant ça, il a appris le gaélique. Alors, il y avait un autre qui est envoyé en Irlande.
En Irlande, oui.
C'est un homme très cultivé. Seulement, il ne parlait pas le gaélique.
C'est ça.
Alors,
voilà.
Il est envoyé en 431. Il est envoyé en Irlande, mais il n'a pas été capable de faire un ministère qui était très actif parce qu'il ne parlait pas le gaélique.
Évidemment, oui.
Parce que lui, il parlait.
Patrice aurait eu un rêve. Je crois qu'il est en Bretagne. Il a un rêve et il voit Dieu une nuit qui lui dit de rejoindre le rivage, de s'embarquer sur un bateau. Et
oui.
Il va donc s'embarquer avec des compagnons. Mais là, le bateau s'échoue, tout le monde a très faim, on n'arrive pas à manger. Et là, Patrick va prier son étrange Dieu chrétien, parce que les compagnons sont païens, n'est-ce pas? Et
oui.
On voit venir un troupeau de porcs et des rayons de miel sauvages qui apparaissent, conversion généralisée.
Ah oui, en fait, quand il y a beaucoup d'événements comme ça dans la vie de Patrick.
Hein. Oui, tout à fait.
Les Irlandais l'aiment tellement, vous savez, qu'ils lui attribuent toutes sortes de choses. Par exemple, il y a des vieilles légendes irlandaises qui disent qu'il avait vécu comme Moïse. Moïse était supposé être mort à 120 ans. Alors lui, oui. Saint-Patrice, il fallait qu'il meure lui aussi à 120 ans. Alors, mais c'est des légendes, en fait, c'est pas de vérité.
Seulement,
c'est un homme qui a galvanisé autour de sa personne là, l'amour de tout un peuple. Tous les gens l'aimaient, puis en fait, tous les gens, ont suivi ses conseils, puis c'est pour ça qu'il a converti presque tout le pays.
Mais Patrice, c'est quand même comme, je veux dire, il y a tout le génie du christianisme antique qui se concentre sur sa personne réelle ou légendaire, peu importe. C'est que l'Irlande, vous y faisiez allusion dans Bolduc, a une tradition littéraire orale très forte, une histoire,
oui.
Une mythologie, une généalogie, une épopée de la musique. Et tout ça
oui.
Est venu se fusionner avec le christianisme autour de la personne de Patrice.
Ah,
c'est ça qui lui donne sa force.
C'est vraiment la chose la plus importante. Parce que autour de lui, là, c'est un homme qui suscitait l'admiration. Tout le monde l'aimait, tout le monde le considérait comme le père de la nation. Alors, c'est un saint, vous savez, qui est porté sur les autels par tout un peuple.
Effectivement. Il paraît qu'il y a aussi le trèfle. Il y en a beaucoup en Irlande, évidemment, l'île verte. Est-ce que Patrice servait des trèfles à trois lobes ou à trois feuilles pour illustrer la Trinité, non?
Oui, en fait, c'est que essayer d'expliquer le mystère de la Trinité, c'est très, très difficile, en fait, parce que
ouais.
C'est le mystère le plus difficile, le plus complexe, tout ça. Mais seulement, il cherchait des moyens simples pour parler aux gens, pour leur expliquer que même si un trèfle, par exemple, a trois feuilles, là, eh bien, ça fait seulement un trèfle. Voyez-vous, c'est un Dieu en trois personnes. Alors, il y a trois personnes en Dieu, mais seulement, il n'y a rien qu'un Dieu, finalement. C'est vraiment des aspects de la divinité. Puis, en fait, il y en a un qui est considéré comme père, l'autre est considéré comme fils, puis l'autre est considéré comme esprit, l'esprit du père et du fils. Alors, c'est un homme qui avait un don très particulier pour essayer d'expliquer les mystères du christianisme à des gens là, populaires. D'ailleurs, c'était un travail qui avait cet élève toute sa vie. À partir de l'âge de, à partir de l'âge de 22 ans, là, quand son sa période de confinement était terminée, là, il a fait un voyage en France. Mm-hmm. Et puis à travers la France, surtout il est allé dans la région d'Auxerre. Parce qu'au Serre, il y avait des grands monastères, là, puis il y avait des maisons d'études qui étaient très développées. Il y avait un saint prestigieux, là. Et puis, lui, là, il est demeuré là pendant des fois, puis il a fait des études de théologie, puis c'est là qu'il s'est formé en France, finalement. Ensuite, ça, il est allé aussi dans le sud de la France, parce qu'il a visité beaucoup d'endroits en France où il y avait une vie spirituelle assez intense, là. Dans le sud de la France, il y avait Saint-Honorat qui était là,
à
les Reims. Alors là, il a travaillé, il a passé quelques mois, peut-être quelques années là aussi. Et puis là, il a appris la religion, puis la théologie, puis tout ça. Et puis il s'est fait ordonner diacre, prêtre aussi, puis même évêque. Il était ordonné là.
Alors, il paraît qu'il se serait ordonné lui-même, et ce qui a provoqué beaucoup d'hostilité.
Non, c'est parce que quand il était à Auxerre, là, il y avait un saint particulier là, qui était comment je t'appelle, donc, l'évêque d'Auxerre à cette époque-là. Là.
Germain.
Germain. Alors, qui était un homme qui l'aurait ordonné. C'est lui qui l'aurait ordonné. Parce qu'il ne peut pas être... seulement, la question, c'est qu'il y a une discussion sur savoir comment c'est facile qu'il est allé, qu'il est retourné dans son pays pour évangéliser le pays. Là, c'est probablement le pape Célestin qui lui a donné une mission, une fonction. Alors, voilà. C'est pourquoi il y a eu un petit mélange de choses-là, mais seulement, c'est qu'il est retourné dans son pays vers l'âge de 40 ans, et puis comme il est mort à 72 ans, voyez-vous, il était à peu près, dans les 2-3 dernières années de sa vie, il était un petit peu retiré, mais seulement il était à peu près une trentaine d'années, là, de l'âge de 40 ans jusqu'à 70 ans, qui a fait un travail apostolique absolument extraordinaire. D'ailleurs, il était accompagné de plusieurs clercs qui étaient des Français, qui étaient venus avec lui, puis qui les a fait venir aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants en théologie là-bas, et puis des gens à Auxerre, là. Et puis alors là, il les a emmenés, et puis là, il a fait il s'est promené à travers tout le pays, là, et puis avec tout un groupe de gens autour d'eux, puis alors dans chaque tribu, chaque petite municipalité, là, il construisait une église, et puis il laissait souvent des prêtres ou des diacres là, qui sur place pour baptiser les gens, puis compléter le travail de l'enseignement religieux qu'il avait commencé. Alors, il a fait un travail absolument extraordinaire à travers tout le pays, là. Et puis, il s'est fixé à la fin de sa vie, là, vers l'âge de 50 ans. Il s'est fixé surtout dans le nord du pays, dans la région d'Armor. Alors, c'est curieux, mais dans le comté de Belfast, il y a un village qui s'appelle Armor.
Ah, tiens. Mais alors, à sa mort, mais dont Bolduc, à sa mort, donc, Saint-Patrice laisse un pays en paix civile, donc l'Irlande, majoritairement chrétienne, et pas un seul martyr.
Ben, c'est ça. En fait, il était très, très habile pour se faire donner des terrains, pour construire des églises. Oui, et puis tous les chefs des tribus, là, lui, il appelait ça des rois dans ce temps-là. Alors, il leur demandait de concéder des terrains pour ça. Et puis, ces gens-là se convertissaient. Et puis, enfin, c'est vraiment un convertisseur, là, absolument extraordinaire. Il y a eu une influence spirituelle très grande. C'est un homme de feu, hein. C'est un
homme de... Donc, Bolduc, il nous reste une petite minute pour finir avec Saint-Patrice. Est-ce qu'il a laissé des écrits? Parce que les informations qu'on a, on l'a vu avec vous, sont parcellaires. Il y a la légende qui se mêle, mais il y a certains écrits, non, qui concernent certaines choses.
Il y a un écrit là, qui est supposé de lui, sa confession. Il décrit son activité pastorale. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Il y a une lettre à Coroticus, qui est un personnage qui était... Il avait des idées bizarres. Là. Il a cherché à le D'ailleurs, on voit dans le milieu où il était, c'était des gens très peu instruits. Hein. Il n'y avait presque personne qui savait lire. Et puis, enfin, c'était pas qu'il n'y avait pas de lecteur. Il y a écrit des livres, il n'y a pas de lecteur.
Don Bolduc, on va arrêter ici. On va devoir arrêter. Vous nous parliez donc de Saint-Patrice, fêté le 17 mars, ou Saint-Patrick également. La semaine prochaine, Sainte-Catherine de Suède?
Oui, ça va, Sainte-Catherine de Suède, là, oui.
Voilà, merci beaucoup, Don Bolduc. Voici, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.